Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Aboubakar Shekau, le chef de Boko Haram, est dans le collimateur de Washington. Le département d'État américain offre une récompense pouvant aller jusqu'à 7 millions de dollars, soit près de 4 milliards de francs CFA, pour des informations pouvant conduire à son arrestation. Les explications de Gilbert Tamba à Abuja, au Nigeria.
Ce n'est pas la première fois que les États-Unis offrent des récompenses pour l'arrestation du chef du groupe Boko Haram. En 2013, l'administration de l'ex-président Barack Obama avait promis la même récompense. La tête de Shekau est à nouveau mise à prix, mais il est difficile de dire où se trouve l'homme le plus recherché du Nigeria, encore moins savoir s'il est encore vivant. Il a déjà été annoncé mort à plusieurs reprises, mais est souvent réparu dans des vidéos comme pour narguer les pouvoirs en place. Aboubakar Shekau a pris la tête du groupe peu après le meurtre de Mohamed Diouf, fondateur de Boko Haram, tué par l'armée nigériane en septembre 2009 à Maïdougouri, en même temps que plusieurs de ses fidèles. Le mois dernier, Shekau a menacé le président Muhammadu Buhari de ne plus venir dans l'état de Borno suite au massacre de voyageurs dans la ville d'Ano. Depuis le début de l'insurrection djihadiste, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées et au moins 2 millions de personnes ont fui leur domicile. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Relations États-Unis-Soudan. La Banque centrale du Soudan a annoncé mercredi que les États-Unis ont informé Khartoum de la levée de sanctions américaines qui frappaient 157 entreprises soudanaises. Le point avec John Lyndon.
Le gouverneur de la Banque centrale, Badreddin Abdelrahim, dit avoir reçu une notification de la décision américaine via le ministère soudanais des Affaires étrangères. La levée de ces sanctions signifie que les entreprises soudanaises concernées peuvent désormais avoir des relations normales à l'international. Il s'agit d'établissements bancaires qui ne seront plus soumis aux restrictions sur les transferts et les opérations avec l'étranger. Les relations entre Washington et Khartoum se sont détériorées peu après l'arrivée au pouvoir de M. Omar el-Béchir lors d'un coup d'État soutenu par les islamistes en 1989. Le fondateur d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, a vécu à Khartoum entre 1992 et 1996. Depuis, les États-Unis ont multiplié les sanctions économiques contre le Soudan, inscrit sur la liste noire des États soutenant le terrorisme depuis 1993. Washington a finalement levé ses sanctions en octobre 2017, tout en maintenant le Soudan sur la liste noire. Khartoum a annoncé début février que les États-Unis ont invité le chef du Conseil souverain, le général Abdel Fattah al-Burhan, à se rendre en visite officielle à Washington.
Soudan toujours, au moins 241 morts. Tel est le bilan des personnes tuées lors de l'attaque délibérée des forces de sécurité soudanaises contre un sit-in à Khartoum le 3 juin 2019. C'est ce qu'a affirmé ce jeudi l'ONG américaine PHR, Physicians for Human Rights, médecins pour les droits humains. L'ONG américaine documente les graves violations des droits humains par le biais de la médecine notamment. Et son rapport publié aujourd'hui sur le massacre du sit-in de Khartoum est basé sur des entretiens avec 30 survivants de l'attaque, plus des témoignages, des évaluations cliniques et l'analyse de milliers de photos et vidéos. La tuerie est l'incident le plus sanglant de la campagne anti-pouvoir au Soudan qui a duré 5 mois et fait plusieurs centaines de morts selon divers bilans. Et ce massacre du 3 juin 2019 a eu lieu après le départ de l'ex-président Omar al-Béchir du pouvoir en avril 2019. Les autorités soudanaises reconnaissent que les forces de sécurité sont responsables de la mort des personnes décédées lors de l'attaque contre le sit-in, mais elles continuent d'affirmer que les victimes ont été tuées par erreur et que le bilan des morts est seulement de 71 tués.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bras de fer Égypte-Soudan-Éthiopie sur le barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu, en cours de construction par Addis Abeba. Cet ouvrage sera le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique et sa construction, qui devrait durer jusqu'en 2022, suscite des tensions entre l'Éthiopie d'une part et les deux autres pays concernés, qui craignent une diminution des débits d'eau et des apports de limon. Sur quoi porte le contentieux entre Addis Abeba et le Caire? Idriss Fall a joint René Lefort, spécialiste de la Corne de l'Afrique.
Les eaux de Nil fournissent 90% de l'eau potable de l'Égypte. Les trois quarts à peu près des eaux du Nil qui coulent en Égypte viennent d'Éthiopie. Donc les Éthiopiens ont dit, nous on voudrait une part du gâteau, et donc ils ont décidé de construire un immense barrage qui sera le plus grand d'Afrique, à des fins exclusivement hydroélectriques. C'est-à-dire un barrage qui ne retiendrait pas d'eau pour l'irrigation et qui ne priverait pas l'Égypte de son débit habituel du Nil. Les Éthiopiens, ils ont commencé à construire ce barrage sans regarder personne. Les Égyptiens ont fini par s'appeler. Des négociations ont eu lieu pour savoir comment est-ce qu'on pouvait un peu arranger cette affaire, c'est-à-dire permettre aux Éthiopiens d'avoir leur électricité et aux Égyptiens d'avoir de l'eau potable. Et puis les négociations étaient dans l'impasse jusqu'à ce que les Égyptiens disent « Eh bien écoutez, nous on va faire intervenir une tierce partie. »
L'Éthiopie n'est pas tellement enthousiasmée par une médiation américaine.
Ben non, l'Éthiopie n'était pas enthousiasmée du tout parce qu'elle était un peu en position de force. Les Égyptiens ne pouvaient pas faire grand-chose sur quelque chose qui se passait en aval du Nil. Mais ils l'ont finalement accepté, on ne sait pas très bien pourquoi, que les États-Unis et la Banque mondiale d'observateurs se sont autoproclamés médiateurs. En fait, acteur direct de l'accord, puisque les États-Unis ont pondu un accord que l'Égypte a signé, mais que l'Éthiopie refuse maintenant de signer.
Et pourquoi ?
Pourquoi l'accord que l'Égypte a signé, l'Éthiopie refuse de le signer au motif qu'elle doit encore l'étudier, consulter, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que le Soudan, qui jusque-là soutenait l'Égypte dans cette affaire de barrage, à l'heure actuelle, n'a toujours pas accepté de signer. Donc on est vraiment face à un blocage et avec Abiy qui est enfermé dans une nasse. Parce que ou il cède, et à ce moment-là il perd tout sur le plan intérieur, hein, ou il ne cède pas, et à ce moment-là il s'aliène les Américains et la Banque mondiale, au moment où l'économie éthiopienne a un besoin absolument fou de devises étrangères.
Et on va aller vers où alors ?
Si a réuni le conseil militaire et l'a fait savoir que le message était clair, il y a déjà eu au sein de la direction égyptienne des discussions pour éventuellement mener une opération militaire contre le barrage, mais je doute qu'on aille quand même jusque-là. Je pense que les négociations vont reprendre. D'ailleurs, la position américaine est très contradictoire. Pompeo dit une chose, Trump en dit une autre. Je pense qu'il y a encore une petite marge pour de la négociation.
René Lefort, spécialiste de la Corne de l'Afrique. Politique au Mali, le Premier ministre Boubou Cissé continue sa visite dans le nord du pays. Le chef du gouvernement et sa délégation sont depuis hier soir à Kidal, ville symbole du rétablissement de l'autorité de l'État malien dans la région. Les visiteurs ont commencé leur tournée régionale par la localité de Tessalit. De Kidal, le point avec notre correspondant Kassim Traoré.
En se rendant dans la région de Kidal, Boubou Cissé dit venir écouter les populations afin de trouver des solutions à leurs préoccupations.
Et c'est ça qui nous amène ici aujourd'hui dans la région de Kidal. Cette visite dans la région de Kidal, ici à Tessalit, s'inscrit aussi dans notre ferme volonté et engagement de faire en sorte que l'accord pour la paix et la réconciliation puisse être non seulement mis en œuvre, ça puisse être le cas de façon diligente et pour le bonheur des populations.
Après l'étape de Tessalit, le Premier ministre et sa délégation sont arrivés à Kidal. Visite sur la notabilité et installation au niveau du gouvernorat de la ville. La jeunesse donne son avis par rapport à la situation de Kidal.
Les services sociaux de base, c'est un problème crucial ici à Kidal. On a un problème d'électricité, de l'eau et surtout de l'éducation.
Bénéficier de tout ce qu'un Malien a comme droit.
Le même droit qu'a les Maliens de Kidal, c'est le même droit qu'un Malien de Kidal doit avoir.
Cette deuxième journée de la visite du Premier ministre Boubou Cissé va s'articuler autour de la rencontre avec l'armée reconstituée au camp 1, la rencontre avec les chefs de mouvement signataires de l'accord d'Alger et les forces vives de la ville de Kidal. Kidal, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Côte d'Ivoire, pour terminer, la révision de la constitution annoncée fin 2019 par le président Alassane Ouattara sera proposée au vote de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis en congrès à Yamoussoukro le 17 mars. Plus de détails avec Bagassi Koura.
Le président ivoirien n'a pas encore dévoilé les modifications qu'il compte présenter vendredi lors d'un conseil des ministres extraordinaire. Il pourrait toutefois les annoncer aujourd'hui pendant son discours annuel sur l'état de la nation devant le Congrès. Le calendrier prévoit aussi une modification de la loi électorale qui devrait être présentée le 28 mars devant l'Assemblée nationale. Une fois présenté au conseil, le texte sera soumis au vote le 17 mars par les deux chambres réunies. Le Congrès ivoirien doit valider toute modification de la Constitution à une majorité des deux tiers et à défaut tenir un référendum.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.